Le micro a doublement le caractère d'une écriture. Il a le caractère d'une écriture littéraire. Il est aussi celui qui écrit l'histoire, pour prendre le titre d'une émission.
Le témoin de ce vendredi, Massin, une traversée du siècle.
La lettre modèle son dessin sur chaque époque, dont elle a pour mission de transmettre l'histoire, la société, les mœurs, en un mot, la civilisation. Il en exprime le style. Ce vêtement des mots n'est pas une tunique uniforme à la chinoise.
La manière si particulière qu'a Massin de manier la lettre et l'image dans la fabrication des livres a fait sa réputation. Il a animé les volumes que nous tenons dans nos mains, parce que nous avons tous un Massin chez nous. La collection Folio chez Gallimard, où il fut directeur artistique 20 ans durant, où les ouvrages d'Albin Michel, où il publie maintenant, lui doivent leur couverture avec cette place si importante accordée au blanc. Mais un livre, ce sont aussi des pages qui défilent, comme un film, comme un train. Quand il s'agit de penser la place des illustrations, les pages qu'il faut concevoir en double page, ne parle-t-on pas de chemin de fer ? La dernière facétie Massin consiste à présenter son dernier ouvrage sans lettrine à la tête des chapitres, bien sûr, mais sans chapitre non plus, sans paragraphe même, sans ponctuation. Ce livre, c'est une manière d'autobiographie, car Massin, non content d'être biographe et parfois autobiographe, il a été aussi journaliste, photographe, éditeur lui-même, bien sûr. C'est un homme pressé qui, en courant, a toujours changé de couloir. Geneviève Dorman le comparait à un chat. Il n'arrive pas. Il apparaît. Il ne part pas, il se volatilise. Mais là encore, on ne peut pas filer longtemps l'image, vu le nombre de chiens qui furent ses amis. Ce qui permettait, quand Gaston Gallimard était au bout du fil, à Massin de dire « Tais-toi Gaston !» Car notre homme est aussi, évidemment, un farceur.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Massin, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez d'un mois à l'autre une traversée du siècle, je l'ai dit, chez Albin Michel. Alors, les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore vont s'étonner. Massin, Massin tout court. Alors, il paraît que sur votre carte d'identité, vous avez pu obtenir, c'est quand même une faveur insigne, nom Massin, prénom Massin, et que vous ne dévoilez votre vrai prénom que très rarement, par exemple, à telle jeune fille qui couche avec vous pour savoir ce secret.
Exactement.
Donc nous, on n'aura rien.
Oui.
Alors vous avez fait des expositions partout. Séoul, Alexandrie, New York, Lisbonne, non, parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent, mais ils étaient sympathiques.
Il y a environ 20 villes dans l'hémisphère nord. Bizarrement, je n'ai jamais franchi la ligne. Le souvenir que j'ai de Séoul, c'est la ville du livre. Han Sang-soo, qui est le plus grand graphiste coréen, m'a emmené un jour à la frontière de la Corée du Nord et j'ai vu près de l'autoroute une cité en construction. Ça s'appelait Sikibuk. Elle n'était pas construite à l'époque, c'était il y a 10 ans ça, et était destinée uniquement au commerce du livre. Je crois qu'il n'y a pas d'équivalent dans le monde entier, Sikibuk.
Et tout ça a commencé chez Marcel Proust, à Illiers-Combray. Je pense que Proust, ça va être un fil conducteur dans cet entretien, Massin.
Combray, de loin, à 10 lieues à la ronde, vu du chemin de fer quand nous y arrivions la dernière semaine avant Pâques, ce n'était qu'une église résumant la ville, la représentant, parlant d'elle et pour elle au lointain. Et quand on approchait, tenant serré autour de sa haute mante sombre, en plein champ, contre le vent, comme une pastour ses brebis, les dos laineux et gris des maisons rassemblées, qu'un reste de rempart du Moyen-Âge cernait ça et là d'un trait aussi parfaitement circulaire qu'une petite ville dans un tableau de primitif.
Alors vous avez l'habitude de dire que vous avez connu Marcel Proust.
Oui, j'ai connu Marcel Proust, effectivement. C'était un illettré. C'était vraiment un illettré. Hein. Il était, ma mère était secrétaire de mairie, en tant qu'institutrice, et sur les registres électoraux, ce Marcel Proust, il mettait une croix, parce qu'il ne savait pas lire, il avait un visage rougeau, et il était gentil comme tout, bon. C'était un berger de mon village.
Donc, aux auditeurs qui sont alertés, c'est un homonyme, évidemment, ce Marcel Proust.
Un homonyme, y compris pour le prénom.
Y compris Marcel. Pour le prénom. Je ne reviens pas sur le thème de votre prénom, mais vous avez trouvé un très beau pseudonyme pour évoquer, dans d'autres livres, votre enfance, Meunuet.
Eh bien, ce pseudonyme, je l'ai trouvé quand j'étais au lycée de Chartres. Et où je prenais tous les jeudis, à la bibliothèque municipale, les albums de l'illustration théâtrale. Et je lus comme ça, peut-être pas 300 ou 400 pièces de théâtre, qui dataient évidemment toutes de cette époque-là, et même d'avant. Bon. Et avec des noms d'auteurs qui sont maintenant totalement inconnus. Et je me suis créé un pseudonyme, Claude Meunuet, Claude à cause de Debussy, et Meunuet à cause du 18e. Hein, et ce pseudonyme, je l'ai réutilisé chez Gallimard quand j'ai apporté un livre de moi pour le faire éditer. Et on m'a demandé le nom de le. Moi je me dis, ben, il s'appelle Claude Meunuet. Bon, donc il ne savait pas que c'était moi. Et j'ai donc pu consulter les rapports de lecture.
Mais qui ont été finalement favorables. Vous avez été publié dans la maison dont vous étiez le directeur artistique. Un livre de Proust, on n'utilise pas les mêmes caractères pour l'éditer, à votre sens, qu'un livre de Claudel.
Bien sûr.
Comment bien sûr? Un livre de Proust nécessite, pour être imprimé, des caractères particuliers différents de ceux d'un autre auteur.
Oui, mais j'ai lu Proust entièrement dans la Pléiade, chez Gallimard. Donc le caractère est chez du Garamond. Et le Garamond est utilisé aussi bien pour Proust que Claudel, que pour Boris Vian, qui vient de paraître. Hein. Donc je ne me fie pas du tout au caractère qui compose ces livres-là. Qui sont toujours les mêmes.
Dites-moi, Gaston Gallimard, que vous avez bien connu, vous racontez beaucoup d'histoires sur Proust.
Ben, parce qu'il l'a connu. Hein. Après, il y a eu un refus de Gallimard pour Proust, hein, qui était surtout celui... je crois que c'est Gide, surtout. Gide disait, ce livre est plein de duchesses. Bon ça voulait dire, à l'époque... politiquement, Proust n'était pas quelqu'un d'intéressant, etc.
Quand Gaston Gallimard vous racontait que Proust avait une santé de fer, ça vous étonnait?
Non, parce qu'il avait une telle manière de vivre. Bon, il n'a pas quitté sa chambre pour une année donnée, du mois de janvier au mois d'août, je crois. Je crois que c'est à peu près ça, hein. Et il couchait avec 5 édredons. C'était un personnage incroyable. Les médicaments, il se trompait. Il prenait 10 fois la dose, c'est arrivé. Plein de choses comme ça. Donc, il fallait vraiment qu'il ait une structure vraiment très, comment dire, très fiable, hein, pour arriver à survivre après des erreurs de ce genre.
Quand vous quittez la Beauce, il y est Chartres, où vous avez été dans le secondaire. Au lendemain de la Libération, vous êtes le secrétaire, enfin un drôle de secrétaire, de Tristan Bernard. On va entendre la voix de Tristan Bernard, tendez l'oreille, Massin, en 1945, à l'époque où vous l'avez connu.
Toulouse-Lautrec était assis, il avait un torse normal... Elle ne présentait dans son aspect aucune singularité. Mais quand on se leva de table, je ne le retrouvais plus, car il avait subitement baissé de 30 cm. Toulouse-Lautrec avait dans son langage des formules extraordinaires et d'une vérité profonde. C'est lui qui disait, quand on dit qu'on s'en fout, c'est qu'on ne s'en fout pas. Et c'est Lautrec aussi qui, parlant d'un garçon que nous connaissions tous les deux, il est bien gentil. Il a l'air d'une sole. Il a les deux yeux du même côté du nez.
Vous retrouvez le vieux maître, là, dans cet enregistrement?
Oui, mais je ne retrouve pas vraiment la voix. Hein. J'ai connu pendant la guerre, en 43 ou 44. Hein. Mais quand il m'a engagé chez lui, Bon, ils me payaient pas très cher, mais enfin, j'avais rien à faire. J'allais acheter des gâteaux à la Madeleine, j'allais récupérer
au Mont-de-Piété.
Au Mont-de-Piété, des ouvrages d'argenterie qu'ils avaient déposés au début de la guerre, en 1939, plein de choses comme ça.
Mais je parlais d'un Massin farceur. Vous la connaissiez très bien, la voix de Tristan Bernard, parce que vous l'imitiez au téléphone.
Ben oui, mais le téléphone...
Alors vous disiez, je suis Tristan Bernard,
oui,
et alors vous vous recommandiez peut-être auprès des interlocuteurs en disant, je suis Tristan Bernard, il y a là un jeune homme, un pécunieux, massin, qui est vraiment très bien.
Ben ça marchait, c'est souvent. Puis en plus de ça, il me passait toutes ses invitations, parce qu'il ne sortait plus de chez lui. C'est comme ça que j'ai rencontré des personnages importants et que j'ai pu m'imposer.
Et par exemple, vous avez rencontré Reynaldo Hahn, le compositeur, l'ami de Proust, à qui vous avez rendu visite avec une autre jeune canaille de vos amis.
Oui.
Et qu'est-ce que vous avez fait chez Reynaldo Hahn ?
Eh bien, chez Reynaldo Hahn, alors qu'un pneu était livré un employé des postes.
Un pneumatique.
La femme de ménage n'étant pas là, Reynaldo Hahn est descendu pour ouvrir. Et pendant ce temps-là, mon ami lui a piqué une quantité considérable de lettres de Proust qu'il a prises en toute hâte dans plusieurs secrétaires et qu'il a mis dans sa poche. Qu'il n'a pas gardé, il les a vendues. Il les a vendues, je peux dire à qui il les a vendues, un homme qui s'appelait Matarazzo, qui était rue de Seine. Et voilà.
Il y a prescription.
Oui, il y a prescription.
Mais il y a toujours Proust.
Il y a toujours
Proust. Vous l'avez lu 7 fois, La Recherche ?
Cette fois, dont une fois bout à bout. Hein.
Alors, vous avez fait journaliste, par exemple, à Combat ou à La Rue, beaucoup d'interviews d'écrivains, vous racontez ça dans Une traversée du siècle, d'un mois à l'autre. Mais alors, ce titre d'un mois à l'autre, évidemment, ça fait penser à Céline, d'un château l'autre. Et en effet, en 1947, à l'issue d'un périple qui vous avait mené à la recherche des réfugiés de l'Exodus à Hambourg, puis en Finlande, dans une prison soviétique, vous avez rencontré, le jour de votre anniversaire, quel cadeau, Céline, vous êtes le premier journaliste français à avoir trouvé, à force d'obstination, l'adresse de Céline, réfugiée au Danemark. Alors ça, c'est pas la voix de Céline à l'époque, c'est une reconstitution dans le film d'Emmanuel Bourdieu.
Comment allez-vous, maître ?
Comme vous pouvez le constater, le Danemark est un pays sans intérêt, tout plat, que de l'agriculture, pas de gibier, pas de forêt, rien, la plus totale des platitudes.
Tu m'avais promis.
Quoi ?
Tu le sais très bien.
Je suis désolé, ce grand nigo prétentieux veut parler littérature avec moi, c'est insupportable. Qu'il aille se faire des puces d'ailleurs, l'imbécile.
C'était Lucette, la femme de Céline.
104 ans.
Maintenant, et à l'époque, Céline et elle vous accueillent, et il y a aussi Bébert.
Bébert, j'ai eu sur mes genoux Bébert. Hein.
Le chat.
J'ai passé 3 heures avec Céline. Alors que Gibault, qui a fait 3 volumes sur Céline, dit que je l'ai vu entre deux portes. Mais je passais 3 heures chez Céline. Il m'a écrit une dizaine de lettres après cette interview que j'ai faite. Tellement il était content de ce que j'avais fait. Il n'y avait pas un mot qui le gênait. Bon. Ceci étant, mon voisin de palier, j'habitais à l'hôtel, ma serrure fonctionnait pas, mon voisin de palier était kleptomane littéraire, il m'a piqué 8 lettres, il m'en reste 2, qu'il n'a pas dû trouver à l'époque, la première étant la plus longue, fait 7 pages de long, de longueur, de 7 pages en grand format, avec des paraphes céliniens, voilà.
Et cet entretien avec Céline, alors on vous l'a fait raconter tant et tant de fois, je suis désolé reprendre le fil, mais quand même, c'est vous-même qui avez continué à vous intéresser beaucoup à Céline, à aller à Meudon sur la tombe, à produire des textes sur Céline.
Oui, bah oui, parce que... Alors, Céline, j'avais découvert 2 ans auparavant, en 1944, à une époque où j'étais lycéen et où on m'envoyait en autocar avec mes camarades pour relever les ruines des bâtiments de la gare d'Aubray. qui avait lieu la nuit précédente. Donc on a passé notre temps à ramasser des cadavres. Hein. Ce qui m'a le plus frappé, c'est un abri en terre qui n'était pas encore bétonné, où il y a une bombe de 500 kilos qui tombait pas loin ou à côté. Et en fouillant, on a trouvé une famille entière, les yeux ouverts, un homme, une femme, une enfant et un chien, les yeux ouverts, debout. Cette image, je l'ai encore dans la tête.
Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a raconté la même histoire au même endroit. C'est Jacques Lacarrière.
Ah bah oui, oui.
Il a été aussi très marqué
en
ramassant des cadavres à côté d'Orléans, aux Aubrais.
Et on est resté 3 jours à Orléans, parce que le soir on allait dans la ville, et on couchait chez des bonnes sœurs à 50 mètres d'un pont qui était le seul pont qui n'était pas bombardé. Donc quand on entendait un bruit d'avion, moi en tout cas, un bruit d'avion, c'était l'avion qui précédait la vague de quadrimoteurs qui allait bombarder. Bon, en fait, ça n'a pas eu lieu. Mais on ne dormait pas.
Hein. Et la peur vous habite encore, donc?
Oui, oui.
Vous n'êtes pas dessinateur, mais vous devenez graphiste. Vous êtes photographe, en revanche. Mais vous ne savez ni peindre ni dessiner. Et vous êtes graphiste.
Oui.
C'est embêtant, non?
Non, vous savez, quand je suis arrivé à Paris, je suis resté longtemps à ne rien faire, sauf que Tristan Bernard m'a envoyé dans différents journaux. Mais à l'époque, je n'avais pas de certificat de résistant. J'avais 18 ans, et les journaux n'avaient que 2 pages, hein, recto verso. Il m'a envoyé Le Populaire, qui était le journal le journal socialiste.
Donc vous êtes graphiste, fausse de mieux.
Oui, non, finalement, je voulais être dramaturge, mais c'est le hasard qui m'a fait débuter chez Gallimard en 58, après avoir fait la période des clubs, hein, club français du livre, club du meilleur livre. Bon, je suis arrivé chez Gallimard, et là, autant je pouvais allonger, réduire un article d'un journal, autant je ne connaissais absolument pas le moyen de faire la maquette de ce journal. Alors là, j'ai eu la chance d'avoir un prot qui m'a... Voilà, qui s'est réfugié... C'est un antifasciste, il s'est réfugié en France, je ne sais pas où, pendant la guerre. Bon, et en 6 semaines, il m'a appris le travail.
C'est comme ça que vous redressez, c'est une plaisanterie que vous aimez faire, la NRF, parce que le sigle NRF avait un peu dérivé, vous lui redonnez un petit peu de dignité, il se couchait.
Ouais. Oui.
Et puis, formidable opportunité, la création par Claude Gallimard de la collection Folio. Alors il faut dire que Claude Gallimard a décidé de retirer le fond de la maison du livre de poche, de rompre avec Hachette et de créer sa propre société de distribution. Nous sommes en 1972 dans le journal d'Yves Morouzy.
J'ai d'abord eu le souci de pouvoir reprendre les titres qui avaient paru précédemment dans le livre de poche traditionnel. Et mon souci était surtout de donner un espèce de nouveau souffle à la littérature en présentant une collection populaire assez différent de ce qui a été fait jusqu'à présent, en lui donnant beaucoup plus d'unité, unité dans la présentation, puisque les fonds seront toujours blancs, des illustrations très différentes, en faisant appel à des illustrateurs assez connus. D'une façon générale, j'ai donc repris les titres anciens, et naturellement, je prévois de mettre dans cette livre de poche des titres qui n'y ont pas encore paru, en particulier les Antimémoires de Malraux qui n'ont jamais paru qu'en édition courante, les Mots de Sartre. Mais je ne voudrais pas me contenter de mettre des livres très célèbres. Ce livre de poche est conçu de telle façon qu'on est moins prisonnier de tirages considérables et que par conséquent, j'espère pouvoir y faire accéder des auteurs qui n'ont pas toujours connu un très grand succès dans l'édition courante.
Alors la présentation de Folio telle que l'indique Claude Gallimard, c'est vous.
Oui.
Le fond blanc, c'est vous.
C'est moi, oui.
Et c'est toujours
c'est moi.
Le nom et le titre à la même place.
Oui, oui. Et les vendeurs de la maison sont tous venus me voir les uns après les autres en me disant ce que vous avez fait est très classe, mais ça ne se vendra pas. Mais enfin, j'ai eu d'autres surprises, parce que bon, j'ai bien connu Jean Genet, qui n'aimait pas les jeunes.
Pardon ?
Jean Genet, qui n'aimait pas les jeunes.
Et c'est pour ça qu'il n'aimait pas le livre de poche ?
Je sais pas.
Non, mais enfin, vous dites ça. Il n'aimait pas les jeunes, il s'intéressait pas au livre qu'achetaient les jeunes.
Alors, je sais pas, je crois qu'il jouait un peu quand même avec tout ça, parce que, bon... Mais enfin, avec lui, je me sentais quand même toujours très très bien, parce que on pouvait lui dire n'importe quoi, on pouvait le critiquer. Et il est sorti il n'y a pas longtemps un livre dont j'avais fait la maquette quand j'étais chez Gallimard. Bon, c'était quand même assez étonnant de voir que Genet refusait tout ce qu'on lui accordait. Il défendait les Black Panthers, puis après il était contre eux. Enfin, c'est un personnage qui était incompréhensible, hein, mais auquel on s'attachait.
Y a-t-il d'autres écrivains qui refusaient les livres au format de poche à l'époque? Vous citez Michaud.
Michaud. Il venait pas souvent chez Gallimard. On voyait très rarement. Et un jour, il voulait me voir. Bon, il savait que j'étais directeur artistique. Il voulait me parler d'un petit livre qu'il voulait faire. Alors, je lui en riant un livre de poche. Il dit, oh non, surtout pas, bon. Et il disait, non, ce serait plutôt un petit livre pour un sac à main de femmes.
Mais votre métier, Massin, vous a permis d'approcher de très près, d'entrer dans l'intimité presque de la mort, ou en tout cas de la vie, de beaucoup de grands écrivains. Juste un mot sur le couple Aragon-Elsa Triolet.
Je pense que c'est celui que j'ai le plus fréquenté. Ben, Aragon et Elsa, je demande à Aragon pourquoi il se lève aussi tôt. Il se lève à 4 heures du matin. Il me dit, mais tu sais, quand on a une sciatique, hein, on dort très mal. Puis en plus de ça, à 4 heures du matin, Elsa dort. Il avait des façons de la remoucher en se servant des grommelots de Molière. Hein. Une fois, c'est pas souvent qu'il m'invitait à déjeuner, une fois qu'il m'avait invité, on n'a pas dit un mot pendant le repas, on a mangé les restes de la veille, puis à un moment donné, Arla pointe le doigt sur l'horloge comtoise en disant « il est à l'heure, puis tu devrais être au parti ». Et alors lui, il essuie sa bouche, et il lui baisse la main, et il s'en va en marchant vite, et avec des grommelots, c'est-à-dire qu'il devait la traiter de tous les noms. Et ça, il l'a fait souvent, ça. Quand elle l'engueulait, il ne ripostait jamais. Hein. Or, je pense que les amours d'Aragon d'Elsa, bon, c'est un thème littéraire. Hein.
Je vous propose, pour finir, en apothéose, non pas d'évoquer le grand travail que vous avez fait autour de la cantatrice chauve de Ionesco, mais celui que vous avez mis sur le métier un nombre incalculable de fois avant de le réaliser enfin autour des mariés de la Tour Eiffel. Alors les mariés de la Tour Eiffel, Cocteau, les ballets suédois de Rolf de Marais, et plutôt qu'un argument, une suite de situations cocasses. Ici, c'est un extrait de l'émission qu'on a tirée pour la télévision, quelqu'un que vous admirez beaucoup, qui s'appelle Jean-Christophe Averti.
Marche nuptiale. Le cortège. La mariée, douce comme un agneau.
Le beau-père, riche comme Crésus.
Le marié, joli comme un cœur.
La belle-mère, fausse comme un jeton.
Le général, bête comme une oie.
Regardez-le, il se croit sur sa jument Mirabelle.
Le général se lève.
Discours du général.
Alors, j'aimerais que vous nous racontiez, à partir de ce cas qui vous a beaucoup préoccupé, comment on réalise une composition typographique, comment on essaye de mettre dans l'espace la durée d'une pièce, la durée d'une œuvre musicale. Vaste difficulté.
Ben, c'est parce que j'ai commencé par travailler à la main, avant d'avoir l'ordinateur, hein, et que j'ai copié, comme j'avais un laboratoire à la campagne, j'ai photographié des quantités d'affiches que j'avais en réserve, hein, et je montais lettre par lettre. Bon. Et j'ai pu faire, dans une maison que je venais d'acheter, où il n'y avait pas encore le chauffage installé, pendant 12 heures par jour, j'ai pu faire ces pages, une page par personnage. Bon. Et quand j'ai eu mon ordinateur, tout a changé. Au lieu d'avoir fait seulement 25 ou 30 pages entièrement à la main, j'ai fait je ne sais pas combien, 140 pages en une dizaine de jours. L'idée était venue qu'il fallait travailler, comment dire, fallait amuser les gens. Alors, j'ai amusé les gens en inventant des gags qui n'étaient possibles que sur l'ordinateur.
Mais alors, des gags qui apparaissent sur le papier, imprimé, et qui sont en correspondance, en analogie, je ne sais pas quel mot employer, avec l'œuvre. Parce que tout est affaire de correspondance et d'analogie pour vous.
Il y avait une double page, par exemple, où j'avais pris une vignette qui datait de 1890, montrant une main en noir, hein, comme un gant, si vous voulez. Hein. Ben, par rapport au texte, je ne sais plus quel était le texte, mais j'ai mis dans la page une trentaine de mains dans de différentes orientations. Et ça, j'ai fait ça en jouant, alors que si j'avais fait ça à la main, ça aurait été moins drôle.
Vous dites dans ce livre, Massin, je n'ai pas tout dit. Vous en avez encore sous la pédale de la BMW, parce que c'est votre dernière voiture.
Mais absolument, mais je retrouve chaque jour une chose que j'aurais pu dire, que j'aurais pu ajouter. Si j'avais pas cette difficulté maintenant que j'ai d'oublier les mots, etc., bon, de perdre mon vocabulaire, y compris les mots quelquefois les plus intéressants, les plus riches, les plus rares, bon. Bon, ben, je recommencerai un autre livre. Alors, je dois ajouter aussi que l'éditeur, c'est pas le premier que j'ai rencontré, et parce que 7 ou 8 éditeurs ont refusé le livre. Ils avaient probablement peur, à cause du nombre de pages. Bon. J'étais un peu brouillé avec Albin Michel pendant un an. Bon. Je n'osais pas trop revenir les voir. Et finalement, quand je l'ai fait, ils ont accepté mon livre tout de suite.
Merci à vous, Massin, et vous n'avez pas redit le nom d'Albin Michel. Si, plusieurs fois, vous n'êtes plus brouillé. J'ai l'impression que vous vous brouillez assez souvent avec les gens.
Oh, ça arrive, oui, ça arrive.
L'émission a été préparée par Frédéric Martin, avec à la technique David Federman et à la réalisation Valérie Aestaraille.